On va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours sur le chapitre 13. Alors en fait, on va accélérer un petit peu aujourd'hui dans les mots, mais on va pas faire tout dans les mots, puisque une grande partie de ce qu'on va dire pratiquement dans la page qui suit, bonsoir. Pratiquement bonsoir. Une page, même pratiquement une page, ouais, de la suite du Tanya. C'est des choses qu'on a déjà expliquées à l'oral, donc on va pas faire de redondance. Mais je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur un point qui va parler aujourd'hui. On parle toujours du Benoni. Et rappelez-vous qu'on a expliqué que c'est quoi le Benoni. Jusqu'à présent, comment on a présenté le Benoni? C'est une personne qui a des challenges, que son Yitzhara le challenge constamment, avec des problèmes de la vie de tous les jours, avec des pulsions, avec des envies, avec des pensées tordues. Et à chaque fois, il arrive à les repousser, à lutter. Donc ça, on va dire, c'est un Benoni standard. C'est le Benoni standard qui représente, ça veut dire ça, c'est le Benoni standard qui représente une personne qui est dans la vie active. D'accord? Ce qui est déjà pas mal, bien sûr. Mais ça représente une personne qui est dans la vie active. Et donc, du coup, son Yitzhara a plusieurs occasions dans la journée de s'exprimer. Et il le fait, et à chaque fois, il repousse. Et comme à chaque fois, il réussit à chaque fois à intercepter les attaques du Yitzhara et à le repousser, donc on l'appelle Benoni. Aujourd'hui, on va parler très rapidement d'une nouvelle catégorie de Benoni. On va parler d'un Benoni qui est assis toute la journée en train d'étudier la Torah. Très bien. Justement, je vais expliquer un petit peu. Pourquoi on l'appelle quand même Benoni? Ce Benoni-là, c'est beaucoup plus subtil, bonsoir, et c'est beaucoup plus compliqué à voir et à savoir qu'il est un Benoni. Pourquoi? Rappelez-vous, à Motay, quelle était la différence entre le Tzadik, le Racha et le Benoni? On va revenir dessus juste quelques instants. On avait expliqué que le tzadik a complètement tué son yitzhara. Il n'a plus d'yitzhara. Le rachat, son yitzhara s'exprime à 100%. Et le benoni ne laisse pas son yitzhara s'exprimer. Et là, il a rajouté un point très important, mais qu'on a expliqué que brièvement la semaine dernière, que c'est pas forcément que ça veut pas dire forcément que le benoni son yitzhara s'exprime. Ça veut dire que le benoni il sait qu'au fond de lui, il a du mal. On a donné le fameux exemple la semaine dernière d'une personne qui a fait teshuvah, qui est religieux, et qui pense que c'est fini, c'est du passé, et 10 ans plus tard, pac, il a des trucs 10 ans plus tôt qui lui reviennent. Alors qu'il pensait qu'il avait déjà fait teshuvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Benoni, il sait très bien que même si concrètement le Yitzhara ne le dérange pas, ça veut pas dire que son Yitzhara n'existe plus, au contraire, il est toujours là. Alors, quand c'est un Benoni standard, quand c'est quelqu'un qu'il est dans la vie active de tous les jours et donc il voit son Yitzhara à des occasions de l'attaquer, il n'a pas besoin d'attendre, d'accord? Il n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour que son Yitzhara lui rappelle qu'il est là. Il suffit d'attendre 2-3 jours, pas qu'il a fait teshuvah, même après Kippour, son Yitzhara, t'inquiète pas, 2-3 jours, quelques heures plus tard, hop, il va lui rappeler qu'il est là. Donc c'est relativement facile pour cette personne-là et il se prendra jamais pour un tzadik parce qu'il sait qu'il n'est pas tzadik. Seulement, à quel moment la complexité va arriver? La complexité va arriver à une personne qui n'est pas dans la vie active. Et donc, moins on est dans la vie active, plus on est dans un cocon, et moins le Yetzirah a des occasions de nous attaquer. Du coup, cette personne-là, comme le Yetzirah a moins d'occasions de s'exprimer, donc du coup, il ne s'exprime pas. Qu'est-ce qu'il va se penser de ce bonhomme? Il va dire, ben, ça serait bien. Ça veut dire que je suis devenu un tzadik. Alors qu'il ne l'est pas. Seulement le problème, vous allez dire, bon, ben, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dérange, il croit que c'est un tzadik? Bon, c'est quoi le problème? C'est un grand problème, ça. Pourquoi c'est un grand problème? C'est un grand problème parce que ce bonhomme-là, pendant des années, il va croire qu'il est tzadik. Et le jour où le Yetzirah aura une occasion de s'exprimer et qu'il va s'exprimer, le bonhomme va tomber de très très haut. Parce qu'il se croyait qu'il était tzadik. Alors, où je veux en arriver avec ça? En fait, on va revenir avec ça à un sujet qu'on avait expliqué au tout début du Tanya. D'accord? Et ça, on va revenir dessus, mais comme j'ai dit, on va le faire rapidement parce que je l'ai déjà pris de plusieurs angles, donc ça sert à rien de s'attarder beaucoup dessus, on l'a déjà expliqué, mais on va le faire quand même très rapidement. Le sujet, c'est Rava. Rava, il était au Beit HaMidrash, et il a dit à ses élèves, il leur a dit, moi je suis Benoni. Il parlait là-bas, il leur a dit, moi je suis Benoni, vous vous rappelez de l'histoire? Et l'élève Abaye, il dit, mais si toi tu es Benoni, qu'est-ce que tu nous laisses pour nous? Alors, la question qu'on avait posée, on a dit, mais Rava, comment il peut dire qu'il est Benoni? Il sait très bien qu'il n'est pas Benoni, il sait très bien qu'il faute pas. Comment on peut répondre à cette question? La clé de la réponse à cette question est très très simple. C'est qu'en vérité, étant donné que Rava était une personne qui n'était pas dans la vie active, puisque Rava justement était dans la Torah toute la journée, donc son Yetzara n'avait pas d'occasion de s'exprimer. Donc Rava, au fond de lui, se disait, c'est vrai que ça fait des années que mon Yetzer Hara, je ne l'ai pas entendu, mais ça ne veut pas dire pour autant que je l'ai tué. Peut-être qu'il est encore là, seulement il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis un tzadik? Non, pas du tout. Voilà pourquoi Rava, toute sa vie et jusqu'à la fin de sa vie, il se posait sincèrement la question, est-ce que je suis tzadik ou est-ce que je suis Benoni? Et dans le doute, bien sûr, dans l'humilité, qu'est-ce qu'on doit dire? Quand tu as un doute si tu es tzadik ou Benoni, qu'est-ce que tu dois dire? Benoni. C'est pour ça que Rava, dès qu'il a parlé de Benoni, il dit, moi je pense que je suis Benoni. J'ai pas de preuve que je suis tzadik. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que là maintenant, on comprend beaucoup mieux qu'en vérité, la subtilité qu'il y a entre un Benoni et un tzadik est très très fine. C'est très très fin. Parce que le Benoni peut croire qu'il est tzadik alors qu'en vérité, il ne l'est pas. Le Benoni, c'est une personne qui a son Yetzer Hara qui l'attaque, mais il n'attaque pas tout le temps. Alors qui me dit qu'il va m'attaquer? Peut-être qu'il ne m'attaque pas parce que je ne lui donne pas l'occasion de m'attaquer. C'est un peu ça qu'on explique aujourd'hui maintenant. Donc là maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, on parle d'un nouveau type de Benoni. On ne parle pas d'un Benoni comme nous qui est dans la vie active, on parle d'un Benoni qui n'est pas dans la vie active. Et pour celui-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense, que le Tanya s'adresse beaucoup à ce genre de personnes-là aussi. Ça veut dire, bon, des gens comme nous qui vivent dans la vie active, on sait très bien qu'on a un Yetzer Hara. Mais il y a des fois des gens qui sont Baruch HaShem, dans un cocon de Torah, qui sont préservés, qui sont protégés, et qu'à un moment, ils pensent qu'ils sont tzadikim. Ils disent, voilà, c'est mon Yetzer Hara m'attaque moi, ils pensent qu'il est tzadik.
Ils le pensent ou on leur dit, et à partir de là, ils le croient.
On leur dit et ils le pensent. Pourquoi il ne le penserait pas?
Parce qu'ils peuvent ne pas le penser.
Pourquoi il ne le penserait pas?
Mais
qu'est-ce qui l'empêche à le penser?
À cause de ça, justement.
D'accord. C'est-à-dire qu'après, bon, après les subtilités vont être, est-ce qu'il a étudié un peu plus de Torah, un peu moins de Torah, mais bon, c'est des choses qui sont très très fines par rapport à nous. Alors à un moment, une personne comme ça peut se dire, est-ce que je suis peut-être tzadik? Et là vient le livre du Tanya qui s'appelle le Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim. Vous savez que l'Admor HaZaken est très critiqué lorsqu'il a écrit son livre. Pourquoi? Parce que comment il a appelé son livre? Le livre des gens moyens. On n'aime pas le mot moyen. Les enfants, ils sont rentrés en classe, là, maintenant. D'accord?
On est au top.
On veut être au top, on veut pas être moyen. Tu lis le livre des gens moyens. Une école pour les gens moyens. Je veux pas, moi, l'école pour les gens moyens. Je veux l'école pour les gens top. Donc, c'est très difficile. Dès que tu fais un livre, et sur la couverture, t'écris, pack pour les gens moyens.
Personne l'achète.
Personne l'achète, ton livre.
Ça se vend pas. Merci.
Et ça, en vérité, c'est le but de l'Admor HaZaken dans le Tanya. D'expliquer que les tzadikim, il y en a très peu sur Terre. Et que même un tzadik, jusqu'à la fin de sa vie, il ne saura jamais s'il est tzadik ou pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas donné d'occasion au Yetzer Hara de se développer, et que le Yetzer Hara, c'est pour ça qu'il ne s'est pas exprimé. Et que jusqu'au dernier instant, après 120 ans dans la qualité de tzadik, et même le Yetzer Hara peut attaquer. Et on a des exemples. D'accord? Voilà pourquoi l'Admor HaZaken appelle son livre le livre des Benonim. Pour te dire, finalement, tu ne sauras jamais si tu es un tzadik ou un Benonim. Jamais tu le sauras. C'est impossible de savoir. Je sais que c'est un peu curieux comme ça, mais c'est impossible de savoir. C'est ce qu'il dit ici aujourd'hui. Donc on va accélérer un petit peu. Donc on va faire un peu dans les mots ici. Afmi. Donc je suis à la page 100, la page 36. Et en français, la page 183 en haut de la page. Page 36, 4ème ligne. Donc là, comme j'ai expliqué, on parle d'un nouveau type de Benoni. On parle pas d'une personne qui est dans la vie active. On parle justement d'une personne qui est
dans l'étude.
Dans l'étude. Af, Miche Betorat Hashem Chefzo, même s'il y a une personne que toute son activité, toute sa volonté, tous ses centres d'intérêt sont uniquement et exclusivement autour de la Torah, Veyegeba Yomam Valaila, et qu'il est assidu dans la Torah jour et nuit, Lishma, et qu'il le fait pour Dieu. C'est-à-dire vraiment, c'est une personne au top, irréprochable. Une personne qui est dans la Torah, et que ses centres d'intérêt, c'est la Torah. Parce que, il faut que j'explique un peu ce que ça veut dire ici. Vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui sont en yeshiva, qui vont étudier, par exemple, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Mais que la Torah n'est pas leur seul centre d'intérêt. Ils ont d'autres centres d'intérêt. Ils vont aimer le football, ils vont aimer les voitures, je sais pas ce qu'ils vont aimer encore. D'accord?
Les Ferrari.
D'accord? Les Ferrari, pourquoi pas? La Torah interdit pas d'avoir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres centres d'intérêt à part ça. Là, il te parle pas de ça. Là, il te parle d'une personne que tout son refet, c'est-à-dire toute sa volonté, tout son désir, tous ses centres d'intérêt, c'est la Torah. Donc du coup, c'est quoi son kiff? Découvrir un nouveau chidouche dans la Torah. Une personne va dire, mais c'est un tzadik celui-là, c'est un grand tzadik, c'est un tzadik d'une envergure énorme. Eh bien il te dit non. Il te dit, Ein zo ochacha klal, shenitre ara mkomo. Bonsoir. Il te dit, il faut savoir que ce n'est pas une preuve du tout, c'est pas parce qu'il est occupé toute la journée à étudier la Torah, c'est pas une preuve que le mal a été repoussé de sa place et qu'il n'a plus de mal. Pas du tout, ce n'est pas une preuve. Et là, il y a Choliot, il est possible. Shemauto ve'atzmuto ou betokpo, gvurato, mimkomé bechala la smali. Donc j'accélère un peu, hein, je l'explique à l'oral. Rak chez les bouchav, chez M. Marchavadi Bourumas, chez Nefesh Abamit, et na mitlapshim, bah mohar, VAP, va yadaï, mouchar et varé agouf. J'explique ce qu'il veut dire ici. En fait, il faudrait qu'on revienne à une idée qu'on n'a pas beaucoup développée dans le chapitre 12, hein, dans le chapitre 13. On a expliqué une idée comme ça, que à l'intérieur de nous, nous avons combien de moteurs?
Deux moteurs.
Un moteur qui s'appelle l'âme divine, un autre moteur qui s'appelle l'âme animale. D'accord? Ça, on l'a expliqué longuement. À part ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les membres. Nous avons les membres, d'accord? Et nous avons la pensée, la parole et l'action. Alors maintenant, écoutez-le ce qu'il va dire ici. Ce qui peut arriver très souvent, c'est qu'au fond de moi, j'ai un moteur qui fonctionne, mais qui tourne à vide.
Ça veut dire
quoi? Ça veut dire que, comme je bloque et je ne laisse pas l'occasion de s'exprimer, ni dans ma pensée, ni dans ma parole, ni dans mon action, ni dans mon cerveau, ni dans ma bouche, d'accord, ni dans mes mains, ni dans les autres membres de mon corps, tous les membres de mon corps, ce qui se passe, c'est que j'ai un moteur qui s'appelle l'âme divine, lui il tourne bien, il tourne et il attrape, d'accord, et j'ai un autre moteur qui tourne à vide. Et c'est comme vous avez un moteur qui tourne, t'as pas enclenché la vitesse. D'accord? T'es au point mort. Est-ce que ça veut dire que le moteur il tourne pas? Bien sûr qu'il tourne ton moteur, il tourne très bien ton moteur. D'accord? Seulement quoi? Il est pas en prise. C'est la même chose. C'est un peu la même chose. L'AFD, là, mais c'est un peu la même chose. Pourquoi l'AFD? On parle de l'âme animale. Alors.
Non, ça illustre bien. Là.
C'est la même chose. Ça veut dire comme ça. Il s'adresse à ce fameux Benoni. C'est Benoni qui est d'un calibre particulier. Ce Benoni qui est d'un calibre d'une personne, on a dit, qui se sent d'intérêt sur la Torah. Il n'est pas dans la vie active, il est dans un cocon de Torah. Et bon, pour lui, il ne faute pas. Il n'y a pas de faute. Il te dit, le fait que tu ne fautes pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur qui veut faire du mal. Seulement, ton moteur n'a pas pu prendre. Il n'y a pas de prise. Ok, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas là. En d'autres termes, attends-toi à des surprises. Tu peux avoir des surprises.
Et puis des grandes.
D'accord. Et des grandes surprises. On peut tomber le très très haut. Et pour une personne comme ça, comme quand il ne s'attend pas, il peut tomber le très très haut. Donc c'est important, hein, pour l'Admour Hazaken de se connaître. Je voudrais rajouter encore un autre point très important, puisqu'on reviendra dessus dans la suite du chapitre. En fait, si on pourrait définir et résumer en un mot ce chapitre, dans ce chapitre, son but, c'est qu'ils veulent qu'on se connaisse intérieurement et qu'on ne se mente pas sur son état.
Mais tout le tania, d'accord, c'est ça.
C'est tout le tania, c'est ça. Mais sur ce chapitre particulièrement, vous verrez que par exemple, à la suite du chapitre, il va poser la fameuse question qu'on a posée au début du tania. Est-ce que quelque part, des fois, on n'est pas un peu des mythos? C'est vrai, c'est une vraie question. Ouais. On va en parler.
Pourquoi
on va en parler. D'accord. C'est vrai.
Est-ce que à un moment, oui.
Ça veut dire, tu as une face et tu poses la question. Est-ce que réellement je suis pas un mytho? Et c'est pour ça qu'il s'adresse justement particulièrement à ce juif qui est très religieux et que Baruch Hashem il ne faute plus. Et il lui dit particulièrement à lui, il lui dit, il faut pas que tu te mentes, il faut que tu te connaisses. Il faut pas vivre dans le mensonge. C'est très mauvais de vivre dans le mensonge. D'abord parce que c'est risqué, mais pas seulement parce que c'est risqué, parce que c'est pas bien de vivre dans le mensonge. On dit que l'Admour Hazaken ne supportait pas le mensonge. Ça veut dire que quand il voyait des choses qui n'allaient pas, il supportait pas faire comme si de rien n'était.
Comme Moshe Rabbeinu, pareil.
C'est-à-dire, il y a un problème, faut le dire. Il y a quelque chose. On peut pas être là comme si tu fais le grand sourire comme si de rien n'était. Il faut être émette. C'est la même chose par rapport à soi-même. On peut continuer à passer de l'enduit et dire, bon, ça va, tout va bien, pas de problème, tout va bien, hop, on met une couche, et il n'y a rien du tout. Ça marche pas comme ça. La chassidut, elle te dit, il faut retrouver le émette. Il faut voir ce qu'il y a au fond de nous. Il y a un dicton chassidique qui est écrit dans Ayom Yom, qui dit que l'Admour Hazaken avait à peu près 1000 chassidim. Et que s'il n'avait pas exigé de ses chassidim le émet, il aurait pu avoir 50 000 chassidim de plus. Je ne sais pas si vous imaginez. En pourcent, ça fait combien, Yves? Le ratio de... Il avait 1000 pour arriver à 50 000.
Ça fait 500
%.
Non,
5000%.
5000%.
Tu as dit
5000. Parce que... Pourquoi? Parce qu'il avait plein de gens, comme l'Admour Hazaken commençait à être connu, d'accord? Comme l'Admour Hazaken était connu, alors, il y avait plein de gens qui venaient pour le voir et pas pour tester, mais pour dire, bon, on va voir ce que c'est la chassidut. Et il y a plein de gens qui repartaient. Pourquoi ils repartaient? Parce qu'ils sentaient que ça exigeait trop d'eux-mêmes. On a besoin, vous savez, des fois, on a besoin de se dire, bon, je suis bon. Ça va, je suis bien. Et là, quand l'Admour Hazaken, il vient, il te remet en place, il te dit, bon, te prends pas pour ce que tu n'es pas. On n'a pas envie, des fois, d'entendre ça. C'est pour ça que je dis juste le titre du livre. Le livre des Benoni, le livre des gens moyens. Moi, j'ai envie qu'on me dise que je suis bien. J'ai pas envie de prendre sur la tête. Donc voilà, c'est ce que l'Admour Hazaken essaie d'expliquer ici. Et donc là, maintenant, il s'adresse à ce juif religieux, et il lui dit, sache que même si ton Yetzahara ne s'est pas exprimé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Seulement quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est là, mais il n'a pas de prise. Il n'a pas, comme tu te maîtrises, donc il n'a pas réussi à attraper ta pensée, ta parole ou ton action. Mais il tourne.
Pour le moment.
Il est toujours là. Pour le moment. D'accord? Ça veut dire comme ça. En clair, j'ai deux moteurs. À part ça, j'ai la pensée, la parole, l'action. Chacun de ces deux moteurs essaye d'attraper au maximum. Le bon Benoni a réussi à faire en sorte qu'il n'y a pas de prise. Il a réussi à faire en sorte que le moteur du Yetzara n'attrape pas, d'accord? N'attrape pas son corps, n'attrape pas la pensée, la parole et l'action. Ce qui est déjà extraordinaire. Mais ça veut pas dire que, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'Yetzara. D'accord? Donc, le seul moment dans lequel le Benoni peut réellement dire qu'il a réussi à faire taire son Yetzara, à vraiment à éteindre, faire caler le moteur du Yetzara, c'est pendant la Tfila. C'est le seul moment dans la journée qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une occasion d'éteindre, de mettre en pause le moteur du Yetzara. Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait expliqué dans la suite, ce qu'on avait expliqué dans le, on a expliqué ça dans la Gemara, c'est pour ça que la Gemara, Rabbi Yochanan, dit dans la Gemara, il dit, Alvai shit palel Adam kolayom kulo. Il dit, Alvai, ça serait bien qu'une personne prie toute la journée. Alors plein de commentaires posent la question, ils disent, mais pourquoi Rabbi Yochanan, il voudrait qu'on prie toute la journée? Pourquoi il dit pas, par exemple, étudier toute la journée? Pourquoi, qu'est-ce qu'il a avec la tfila? La tfila, c'est important, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Maintenant, on comprend. Parce que comme la tfila, Dieu a donné cette capacité particulière à la tfila, d'éteindre, d'accord, et en tout cas de mettre en pause l'âme animale, comme il a donné cette capacité à la tfila, alors c'est pour ça qu'il te dit, en vérité, si on aurait pu prier toute la journée, on aurait été préservé du Yetzara. Seulement, comme techniquement, évidemment, c'est impossible, parce que bon, il faut prier, il faut étudier, il faut travailler, etc. Oui. Donc le Yetzara, il a des occasions de s'exprimer.
C'est plus valable, nos gens.
C'est de quoi? Qu'est-ce qui est plus valable?
La tfila, ça enlève tout, ça met en pause le Yetzara.
Alors, l'Admor HaZaken va expliquer dans la suite que pour arriver à ce niveau-là, il faut une préparation.
Si tu le fais avec Kavana, oui.
Oui, grande préparation, mais avec une préparation, c'est possible. Quand on se prépare bien à la tfila, on peut arriver à une situation que quand j'arrive à la tfila, le Yetzara, il est éteint. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais il faut une préparation. Comme tout.
Il fallait commencer à faire les télim avant, c'est ça, pour ce qu'on dit.
Télim, la chassidut, étudier la Torah, penser à Kadosh Baruch Hu, se préparer, pas venir à sec comme ça. Sinon, le moteur, il casse.
C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, que ce soit le Yetzerara ou le...
Qu'est-ce que tu penses, Sam?
On a dit qu'il pouvait venir même en cas si t'es mytho, même si t'es sincère. Donc il y a toujours...
Voilà. Alors ça, c'est... Je n'ai pas encore touché à ça, mytho et sincère.
Non, parce que...
Ça, c'est une grande question.
Il y a deux cas de figure.
Parce que, regardez, la question...
Si tu es sincère et tu veux prier, il y a le Yetzerara qui vient pour t'ennuyer. Et si t'es un peu mytho, il vient aussi pour te chatouiller, pour te changer.
Alors voilà. Donc la question qu'on touche, c'est une très bonne question. En vérité, je veux pousser un peu plus loin la question. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite du chapitre. Ce qui va nous déranger, c'est qu'il dit finalement, si je suis mytho, bah autant ne rien faire.
Ça sert à rien.
Non, mais c'est vrai. À quoi ça sert de faire des trucs, faire croire un truc alors je le suis pas. Mais on peut rester comme ça toute la vie. Et la majorité des gens restent comme ça toute la vie. Ils sont mytho.
Se mentir en permanence, c'est grave.
Regardez. On a par exemple maintenant un Rosh Hashanah qui va arriver. Je vais donner un exemple sur toute l'année et je vais donner un exemple dans la journée. Regardez. On va prendre un exemple sur toute l'année. On a les slichot maintenant. C'est la période des slichot. Je vais répondre à la question. On a maintenant les slichot. D'accord? Slichot, ça veut dire qu'on commence à les slichot. Très bien. Alors. Marcel, je vais répondre à la question.
Oui,
on a les slichot. D'accord. Après, on va arriver à Rosh Hashanah. Après, on va arriver à Yom Kippour. On va demander pardon à Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que quand on demande pardon, on pense que l'année prochaine sera différente de l'année d'avant?
À la seconde, on demande, oui.
Mais on sait.
Bah oui.
Si on réfléchit objectivement et honnêtement.
Oui. Bah oui, sinon ça sert à rien.
Attends, dis-moi, ça fait 40 ans que ça dure.
Par expérience, on voit que c'est.
Par expérience, on voit que c'est faux.
Il y a des gens qui te disent à quoi tous les jours je vais demander pardon à Rochelle.
Je sais que je vais refauter.
On dit comme ça.
C'est une grande question. Non, mais ça c'est une. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Voilà.
Au moment où t'as demandé, t'étais sincère.
La teshuvah, c'est
une erreur. Non, mais
attends. Je sais pas quand tu vas pas.
Bien sûr.
Donc c'est tout le temps.
Alors c'est la question. Je vais vous poser encore une autre question. Regardez. Là, je veux pas parler de toute l'année. Je veux parler de la journée. Quand je commence ma journée, je me dis aujourd'hui, je vais assurer. Tu fais la tefila, etc. Tu y vas. Mais on sait très bien qu'on ne devient pas des tzadikim. Donc la question que je pose, c'est finalement, est-ce que c'est pas un peu du mytho? Ou bien, pour le formuler un peu différemment, est-ce que c'est pas de l'autosuggestion? Ça veut dire, tu dis, je vais devenir comme ci, alors que c'est faux. C'est dommage. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps de vivre comme ça dans un mensonge. Donc c'est une grande question qu'on va poser à l'Admor HaZaken dans la suite. Et d'après l'Admor HaZaken, en vérité, 99,99% des gens sont quelque part mythos.
Beaucoup,
ça veut dire quoi mythos? Attends, je vais expliquer. Oui, seulement, ouais. L'Admor HaZaken va expliquer, quand même, pourquoi il faut continuer et qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça. Mais parce que quelque part, ce qui nous dérange, c'est que tu te promets des choses que tu ne feras pas forcément. Laissez-moi arriver, je vais arriver au bout du raisonnement. Ça veut dire quoi? Tu te convaincs de quelque chose sur toi-même, alors qu'en vérité, tu sais très bien que tu ne l'es pas si tu réfléchis objectivement. Donc, la question que je vais poser, en fait, je la prends de plusieurs angles, hein, c'est, est-ce que ça vaut le coup de gratter pour voir ce qu'il y a derrière?
Ouais.
Je risque d'être un peu choqué, et je risque finalement de casser un équilibre et de plus rien faire. Très très grande question, ça. Une très grande question. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Et c'est une grande approche dans le judaïsme, mais là c'est pas l'approche de l'Admor HaZaken. Il y a des gens qui te disent tant que ça marche, ne touche pas.
Ouais, mais bon, tu peux.
D'accord.
Tu casses rien.
Ouais, voilà.
Tu casses, t'avances pas.
Voilà. Et comme ils disent comme ça, tu dis, c'est une approche. Bon, il y a un problème en anglais aussi qui dit voilà. Il dit si c'est pas cassé, ne le touche pas. Tant que c'est pas cassé, ne touche pas.
Tu t'avances pas jusque là. Tu veux rien casser.
D'accord. Ça c'est une approche.
C'est pas une approche. En fait, c'est. Si tu réfléchis bien, quand tu grattes, ça veut dire que tu vas chercher au fond de toi.
Voilà.
Quand tu vas chercher au fond de toi, si tu veux vraiment aller chercher au fond de toi, ça veut dire que tu vas trouver toi. Si c'est toi, réellement ce que tu as voulu chercher, tu vas trouver la vérité.
C'est vrai, mais tu risques d'avoir des surprises.
Non,
d'accord.
Tu risques d'avoir des surprises entre ce que tu veux faire et le décalé de ce que tu as fait.
Oui.
Mais au final, tu as essayé de le faire.
Tu risques d'avoir des surprises et tu risques surtout d'avoir, de casser un équilibre que tu avais déjà.
C'est vrai. Écoute-moi bien, peut-être c'est comme une maison qui est mal bâtie. Des fois, il faut casser
toutes
les fondations pour rebâtir.
Mais d'un autre côté, j'achète une maison. Est-ce que je dois me poser la question, est-ce qu'elle est bien bâtie ou pas? Alors qu'elle a l'air bien bâtie.
Non, il faut pas l'acheter.
Mais moi, je l'achète, elle a l'air bien.
C'est
une grande question. Il y a beaucoup de. Je pense que jusqu'à l'Admor HaZaken, en tout cas, beaucoup avaient cette approche-là, qui disaient tant que c'est pas cassé, ne touche pas. Tant que c'est pas cassé, ne touche pas, on cherche le problème. Et là, l'Admor HaZaken, il dit que puisqu'on est dans la chassidoute Chabad, ça veut dire quoi? On est dans la compréhension. L'Admor HaZaken dit, d'après moi, c'est très important de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc de sonder. Et d'être prêt à avoir des surprises. De ne pas avoir peur de ça. D'accord? Ce qu'on va essayer de développer maintenant. Alors, tu quoi? Tu? Ok, je résume. Je vais reprendre le fil conducteur depuis le début du chapitre pour expliquer où je vais en arriver. Le but de ce chapitre, le chapitre 13, on a expliqué, on a parlé du Benoni, on a dit que le Benoni se fait juger par son Yitzhak et par son Yitzhara. Juger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun dit son point de vue. D'accord. Mais que finalement, le Benoni, ben, il aura l'aide de Dieu pour l'aider à faire en sorte que qui c'est qui va gagner? C'est le Yitzhak. Ça, c'est très bien. Seulement, le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est que jusqu'à maintenant, on parlait d'un Benoni classique. Ça veut dire un Benoni qui est dans la vie active et que son Yetzara se fait ressentir tous les jours. Et qu'il n'a pas besoin. Jamais il se dira qu'il est tzadik, il sait qu'il n'est pas tzadik. Jamais il va dire je suis tzadik. Seulement, c'est quoi sa force? C'est qu'il arrive à chaque fois à ne pas écouter son Yetzara. Mazal tov, c'est un Benoni. Là maintenant, on parle d'une autre personne. On parle d'une personne que son Yetzara n'attaque pas. Et donc, du coup. Pourquoi? Parce qu'il est dans un cocon, il est pas dans la vie active, donc son Yitzhara ne l'attaque pas, ou très peu. En tout cas, pas assez pour qu'il sente qu'il fasse du mal. Il se sent bien, rien de bien. Donc cette personne-là, il se sent sadique. Et là vient l'Admor HaZaken, et il remet un petit peu en place. Il lui dit, attention, c'est pas sûr que tu es sadique. C'est pas si sûr que tu es sadique. Peut-être que tu es Benoni, et que peut-être que ton Yitzhara est encore aussi fort qu'à ta naissance. Aussi fort qu'avant. Alors dans ce cas-là, pourquoi il s'exprime pas? Il te dit parce que comme tu es dans un cocon, donc ton moteur tourne, mais il n'a pas la possibilité d'avoir une prise. D'accord? Donc juste une seconde, j'arrive à la fin du raisonnement. Donc ça m'amène à une question, et là la question générale qu'on dit, il dit mais attends, ce monsieur-là, il est religieux, il est bien, il fait pas d'avérante. Pourquoi tu lui demandes de se prendre la tête à se dire est-ce qu'en vérité il est religieux? Il est religieux. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de chercher les problèmes quand il n'y en a pas? On a l'impression que c'est un peu ça, là.
Chercher
la petite bête. D'accord? Pourquoi tu cherches les problèmes? D'accord? Pourquoi tu cherches les problèmes? Il est bien.
Dans une yeshiva, t'es en dur de camarades.
Donc, c'est ça l'approche de l'Admor HaZaken. L'approche de l'Admor HaZaken, c'est qu'il te dit, il faut pas se fier aux apparences. Et on parle pas seulement des autres. On parle même de moi. Et surtout de moi. Je dois pas me fier à mes apparences. Ça veut dire que quand j'ai l'impression que tout va bien, ça veut pas dire que tout va bien. Il faut sonder, il faut vérifier. Concrètement, ça veut dire que je vais faire quoi? Ça veut dire que j'ai enlevé la kippa, Chas v'Shalom? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que dans ma tête, même si je me comporte comme un tzaddik, je me dis peut-être que je suis Benoni. Il faut savoir, il faut être prêt à cette hypothèse. Il faut...
C'est pas un chédé d'Italien, c'est marqué dans Perkavot, Atamin
Bien sûr, mais il a dit d'un autre côté, c'est écrit Altei Rachavi Fina Tzmecha. C'est la question qu'il a posée dans le chapitre 1.
Oui, mais c'est aussi marqué, il y a deux visions.
Alors comment c'est possible? Alors ça, c'est l'approche de la Morozaken, qui veut dire qu'on parle d'une personne qui, dans les actes, il est comme un tzaddik, mais concrètement, il peut être Benoni sans le savoir. Donc il sait pas s'il est Benoni ou il est tzaddik. Et donc c'est pour ça que la Morozaken le remet en place. Il le remet en place, il lui dit, sache que jusqu'au jour de ta mort, tu ne sauras jamais. Tu es tzaddik ou pas? Ah, pour si je suis, alors si je suis Benoni, pourquoi le Yetzara s'exprime pas? Et tu ne savais rien dire. Le fait qu'il s'exprime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais tu ne l'as pas donné l'occasion de s'exprimer. Mais tu verras que je te garantis que si tu lui donnes l'occasion de s'exprimer, il va s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire ici que tu n'es pas tzaddik. Et que, le point qu'on vient de rajouter, c'est que finalement, le seul moment dans lequel le Benoni peut dire, je n'ai pas Yetzara, c'est quand il est en train de faire cette fille-là, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Et même ça, c'est pas qu'il n'a pas d'Yetzara, c'est qu'il arrive un moment dans lequel, vous savez, c'est comme dans un combat de boxe, quand tu as un qui a appuyé l'autre et que l'autre il est par terre. Bon, il est par terre. Là, il dit, le seul moment dans lequel tu peux dire ton Yetzara, il est par terre, c'est quand tu es en train de faire tes fille-là. Même si c'est un rachat. Tout le monde, on a la possibilité pendant la tefila de mettre par terre son Yetzara. À part la tefila, t'as aucun moment. Donc, où l'Admor HaZaka veut nous amener ici, et veut nous amener à nous dire, tu n'as aucune possibilité de savoir si tu es Benoni ou si tu es tzaddik. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Je fais un peu à l'oral parce qu'on va sauter un petit peu quelques lignes ici. Voilà pourquoi Rabba pensait qu'il était Benoni, bien qu'on sait très bien qu'il n'arrêtait pas d'étudier la Torah. Parce que Rabba se disait, peut-être que je suis un Benoni de la catégorie qu'on vient de citer, à savoir, un Benoni qui est dans un cocon de Torah, que son Yetzirah n'a pas l'occasion de s'exprimer, mais qu'en vérité, il a un Yetzirah, et donc il se disait, peut-être que je suis Benoni. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi ce que la Gemara dit, que Alvay Sheit Palel Adam Kolayam Kulo, ça serait bien qu'une personne prie toute la journée, puisque pourquoi on encourage une personne à prier un maximum? Parce que lorsqu'on prie, c'est le seul moment dans lequel on peut dire qu'on a éteint son Yetzirah. Et là, juste après maintenant, on va faire dans les mots, on va arriver à la question que je vous ai posée, à savoir, numéro 1, est-ce que quelque part c'est pas du mytho? Est-ce que des fois dans la vie on se suggère pas qu'on est à un certain niveau alors qu'on ne l'est pas? Et je viens en parler tout de suite, d'accord? Et numéro 2, est-ce que c'est pas dangereux de chercher des problèmes quand il n'y en a pas? Ça c'est les deux points qui nous reste à développer pour aujourd'hui. D'accord? On est d'accord?
Oui. Non, tu parlais de cocon.
Oui.
C'est forcément un cocon de Torah.
C'est forcément un cocon de Torah? Non, pas forcément. C'est pas forcément un cocon de Torah. Tu peux avoir par exemple quelqu'un qui est dans une école, qui est dans un cocon. Ouais. C'est-à-dire qu'il est protégé. Exactement. Et qui croit que c'est quelqu'un de bien. Et tout d'un coup, dès qu'on laisse dans la vie active, on ne le reconnaît plus. Et lui, il se sentait quelqu'un de bien. Et tout le monde autour de lui pensait que c'est quelqu'un de bien. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça que la Admor HaZakeh, tu dois constamment faire une auto-évaluation et de te rappeler que c'est pas parce que maintenant je suis comme ça qu'en vérité ça représente, ça reflète ce que je suis réellement. Parce que rappelez-vous que d'après le Tanya, Tzadik, Racha, Benoni, c'est pas au niveau des actes. C'est au niveau de l'intérieur, au niveau de l'auto-évaluation sur qui je suis. L'Admor HaZaken te dit, dans les actes, tu peux être tzadik, mais en vérité, au fond de toi, tu es Benoni. Tu peux pas savoir. Donc voilà pourquoi Rabba, jusqu'au jour de sa mort, il dit, je sais pas si je suis Benoni ou pas. Alors évidemment, Abaye, son élève, il lui dit, mais non, Rabbi, vous êtes tzadik, etc. Bon, l'élève avait été dans son rôle. L'élève était dans son rôle de dire à Rabba, il dit, non, vous êtes tzadik. C'est normal que l'élève dise ça. Mais c'est normal aussi, que le tzaddik, il dit, moi je sais pas ce que je suis. Parce qu'il a aucun indicateur pour savoir s'il est tzaddik ou Benoni. Aucun indicateur, c'est impossible de savoir. Comment tu veux qu'il sache?
Le vrai tzaddik, il le sait.
Oui. Pas forcément. Parce que c'est quoi tzaddik? C'est qu'il faute pas? Le Benoni aussi,
non,
il faute pas.
Mais on a dit qu'il venait de famille, que c'était héréditaire.
Et mais non, justement, ce qu'on a expliqué.
Il y avait même des écoles où on pouvait les former.
Jusqu'aujourd'hui, on parlait, j'entends la question. Jusqu'aujourd'hui, on parlait d'un Benoni qui était confronté quotidiennement à son Yetzara. Là, on parle d'un Benoni que son Yetzara n'embête plus. Donc, mais pourtant, il a toujours un Yetzara. Pourquoi son Yetzara ne l'embête plus? Parce qu'il est dans un cocon. Donc, il croit que c'est fini. Je vais essayer de simplifier un peu l'exemple pour le mettre à notre niveau, parce que là, il parle de quelqu'un d'une grande envergure. Voilà. On va commencer par exemple, on va bientôt arriver à Rosh Hashanah. Pendant Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., on va dire que le Yetzara, il nous laisse tranquille pendant 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Pendant ces 10 jours, t'as l'impression. Amen. Bon.
Ouais.
Hmm? Non, on va dire que là, bon, tu sens que ça décolle, quoi. Tu sens que ça parle, d'accord? Amen. Bon, ok.
Très bien.
Alors, bon, c'est comme ça quand même, non? C'est assez rétimé, tu vois. Pendant ces 10 jours-là, tu sens que ah, ça y est, ça a décollé. Tu sens que ça décolle, tu sens que le tsara, il te dérange moins que d'habitude, ou même presque pas. Et là, encore une fois, vient la Gemara Zaken pour te dire, attention, auto-évaluation, ne te base pas par rapport à ce que tu vois maintenant. Tu as un Yetzarara, il est toujours là, seulement, comme tu t'es mis dans un environnement de Rosh Hashanah, qui penche les rotes, etc., donc tu le laisses pas s'exprimer. Mais t'inquiète pas que dès qu'il y aura un peu de pause, dès qu'il y aura un peu de calme, il va revenir. Donc attention, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Au fond de toi, tu as encore un Yetzarara, il est actif, il s'est jamais arrêté. Et c'est important, ça, de le rappeler. C'est très important de le rappeler.
Moi, je pensais que plus le potentiel de Tshuva était grand, plus le potentiel de Yetzara était grand.
Pas forcément.
Donc, je pense qu'on a plus de Yetzara pendant cette période.
C'est vrai?
Pendant toute l'année.
Ça dépend. Non, il y a des situations dans lesquelles, comme on a expliqué, soit parce qu'on fait la Tfila, soit parce qu'il y a des situations dans lesquelles, quand on se met dans un environnement, dans une ambiance, etc., le Yetzara est avec moi. Tu comprends? Comme par exemple, quand tu vas chez le Rabbi, tu vas chez un Tzadik. Le tsara, t'es dans un environnement de Kdusha. Il sait qu'il a intérêt à se taire, mais c'est pas le moment pour lui de parler. Mais ça veut pas dire qu'il est pas là.
Mais tu lui offres moins d'emprise.
Voilà. Je lui donne pas l'occasion de, je lui donne pas l'occasion. Mais il est là. Il est là. Même si je le sens pas, il est là. Il est avec moi. Il est là. Ok? Donc, dans les mots. Alors, je vais sauter quelques lignes, hein. Parce qu'en fait, même beaucoup de lignes, parce qu'en fait, on a expliqué à l'oral ce que j'ai dit au début du cours.
Est-ce qu'il y a une échelle du Yetzerara dans le Benoni et par rapport au Rachel Gamour, le méchant de très méchant? Est-ce qu'il y a une même proportion? C'est-à-dire qu'on pense que celui qui est bien, il est dans la Torah, il fait du bien, il sait que le Yetzerara est là. Mais celui qui fait, entre autres, Robin des Bois, genre, ils volent les riches pour donner aux pauvres. Et ce qu'il fait, c'est bien, parce que lui, ce qu'il fait, c'est dans la bonne, entre guillemets. Mais est-ce que, bon, le type qui ferait, entre autres, des choses mauvaises, en disant, voilà, moi, je fais ça, est-ce que son lieu, etc., il est potentiellement plus fort encore? Et c'est quoi sa punition? C'est quoi, en gros?
Non, c'est qu'il a laissé son Yetzara s'exprimer. C'est possible que le Benoni ait un Yetzara qui est beaucoup plus fort. Le Benoni peut avoir un Yetzara qui est plus fort qu'un Racha. Seulement, le Benoni ne laisse pas s'exprimer son Yetzara, alors que le Racha le laisse s'exprimer. C'est ça la seule différence.
Ils ont les moyens de le contrer, alors que le Rachat, il n'a pas de problème.
C'est-à-dire que le Benoni le contrôle plus.
Il le laisse pas s'exprimer.
Ouais, il lui donne pas l'occasion de contrôler.
C'est-à-dire, si tu veux, imagine-toi, voilà, c'est comme tu es devant toi, en toi, tu as un méchant et un gentil. Et c'est toi qui décides lequel je laisse m'exprimer. Mais il est là, le méchant.
T'inquiète.
Je peux pas le tuer, le méchant, sauf si je suis sadique. Et c'est pas parce que j'ai pas entendu le méchant qu'il est pas là. Il est là, seulement j'ai pas laissé s'exprimer. Voilà, c'est un peu ça la direction. Alors, on va prendre Velachen Aya Rabba Machazik Atzmo Benoni. Donc, en haut de la page, Yutet. Alors, en français... Bon, j'ai sauté pas mal, hein. Voilà. Mais parce que j'expliquais à l'oral, c'est pour ça que je voulais 37. Pas...
C'est le troisième livre. 37.
Voilà, voilà. Bon. Page 187.
Ouais.
En bas de la page. Et en hébreu, c'est page Yutet en haut. Et la reine, voilà, c'est la raison pour laquelle Aya Rabba Machazik Atzmo Kebenoni. C'est la raison pour laquelle Rabba se considère comme un Benoni. Avdelopastik, vous aimez dire ça, bien qu'on sait comme on a expliqué que Rabat n'arrêtait jamais d'étudier. Il n'a jamais arrêté d'étudier. Donc il était dans un cocon de Kedusha. Ou Betora Tachem Khevtso, et quels étaient ses centres d'intérêt, où était sa volonté? C'était uniquement dans la Torah. Yomam Valaila, jour et nuit. Bachafetza, Bachasheka, Utshuka, dans une envie, dans un désir, dans une passion. Venefesh Shokeka est une âme assoiffée, l'Hachem, vers Dieu, Be'ava Rabba avec un grand amour, Kibishat Kriat Shema Utfila. C'est-à-dire que Rabba, quand il étudiait la Torah, il y a des témoignages, c'était le feu. Et comment Rabba peut dire je suis Benoni? Rabba, il dit, ça veut rien dire. Comme je suis justement dans le feu de la Torah, dans le feu des mitzvot, dans le feu de la Tfila, mon Yitzhara ne m'a pas attaqué parce que chaque fois il sent que c'est pas le moment. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus là? Il est là! Seulement, comme je n'ai jamais l'occasion, parce que chaque fois, je suis très très chaud, au Hachem, dans le feu, la passion, l'amour de la Torah, alors l'Etzara ne s'exprime pas. Mais Rabba dit, je me connais, et je sais que ça veut rien dire. J'ai peut-être un Etzara qui est là. Ah, il s'est pas exprimé. Ah, je ne le ressens pas. Mais il est là. Voilà pourquoi Rabba pouvait dire sur soi-même qu'il était Benoni. Venidme Benav, Rabba à ses yeux, s'imaginait, que Benoni amit palel kolayom. Il s'imaginait être le statut possible d'un Benoni qui prie toute la journée. Comme les Chachamim m'ont dit dans la Gemara Brachot, page 21, Alvay Sheit Palel Adam Kol Hayom Kulo, que ça serait bien qu'une personne prie toute la journée. Donc Rabba, il disait, c'est très simple. Et c'est peut-être que qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, en vérité, c'est vrai que je prie pas toute la journée. Je prie et j'étudie. C'est vrai. Mais l'étude que je fais, je la fais avec une telle passion que c'est comme la tefila. Donc il s'est dit, peut-être que j'ai une telle passion dans mon étude et dans ma tefila. Et ce qui a été le cas, d'accord, il y a des témoignages dans la Gemara de la passion qu'il avait. Il se dit, peut-être que mon Yitzhara, il n'a pas l'occasion de s'exprimer. Mais en vérité, il est là. Et c'est pour ça que Rabba, en toute honnêteté, et c'était pas un mensonge, c'était pas une fausse humilité de dire oui, je suis Benoni, alors qu'en vérité au fond de lui c'est qu'il est tzadik. Non, honnêtement, il dit peut-être je suis Benoni, parce qu'il se dit mon Yitzhara, je lui donne pas l'occasion de s'exprimer, mais au fond de moi peut-être qu'il y a toujours un moteur. Évidemment, les élèves ont répondu non, Rabbi, vous êtes un.
Donc là, ce que tu
là maintenant j'arrive à la question.
Pourquoi juste les élèves?
Parce que ça, c'est le rôle des élèves. Les élèves, ils disent, si vous êtes Benoni, qu'est-ce qu'il nous reste à nous?
Je comprends. Et c'est pas aux élèves qui peuvent avoir plus la perception que...
Non, mais je pense que c'est plus le rôle d'un kavod, du kavod d'un élève par rapport à un rav, de dire, non, Rabbi, vous êtes notre Rabbi, etc. Mais bon, c'est normal. C'est normal de... Ça, c'est le rôle des élèves. Le rôle des élèves de dire, mais non, vous assurez, tu assures, etc. Bon, c'est normal, c'est le rôle des élèves. Mais le rôle du maître, c'est pas une fausse humilité. Parce qu'il y en a qui expliquent comme ça, ils disent non, bon, il dit quand Rabba il dit je suis béni, non, c'est parce qu'il n'a pas envie de dire je suis qu'est-ce que je suis tzadik. Alors il dit c'est une humilité. Ça, la Morazaka n'accepte pas.
Mais personne il n'a jamais dit de lui-même qu'il était tzadik.
Exactement, parce que. Alors, non, mais ça ne change pas. Alors dans ce cas-là, tu dis rien. Dire je suis béni alors tu penses que tu es un tzadik, parce que tu dis Zerma par humilité, ça s'appelle de la fausse humilité. Et de la fausse humilité, c'est de l'orgueil.
Non, ce qu'il peut penser, c'est que finalement, un béni qui aurait la capacité de prier tout le temps, comme il voilà. Le fera pas. C'est qu'il pourrait, pourquoi pas, s'imaginer qu'il peut être tzadik.
Non, justement. C'est qu'il se dit...
Peut-être que je suis pas...
C'est quoi le tzadik? Le tzadik, c'est celui qui n'a pas d'yitzhara. Alors, peut-être que moi, je suis tzadik aussi, parce que mon yitzhara, je le sens pas. Et c'était le cas, réellement.
Un Benoni qui parlait tout
d'après l'Admor HaZaken, évidemment, et nous, on pense aussi que Rabba était un tzadik. C'est évident. Mais pourquoi lui, il dit, peut-être que je suis Benoni? Parce qu'il dit, le fait que mon yitzhara ne s'exprime pas, c'est pas un indicateur. Comme j'étudie la Torah toute la journée avec une passion comme la tefila, donc je ne donne pas l'occasion de s'exprimer. Donc c'est pour ça que mon Yitzhara n'est pas là, mais, enfin, je le sens pas, mais peut-être qu'en vérité, mon Yitzhara est toujours là.
Il est ni parfait, il n'existe pas. Ou sinon il est sadique.
Non, le béni parfait peut exister. Mais il se pose toujours des questions. Il dit, je sais pas qui je suis.
Ouais, mais la frontière entre tzadik et
Benoni. Exact. Vous avez compris. Voilà. Vous avez compris que la frontière entre le Benoni parfait et le tzadik est très très fine.
Ah ouais.
Est très très fine. Et en vérité, à mon avis, enfin, il le dit pas clairement, mais à mon avis, c'est impossible de savoir si on est Benoni ou tzadik. C'est impossible.
On le sait après.
D'accord.
On
communique avec le Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Tout le monde communique avec le Kadosh Baruch Hu. Non. Mais encore une fois, le tzaddik, la définition d'un tzaddik d'après l'Admor HaZaken, c'est pas une personne qui fait des miracles.
Oui, d'accord.
Non, mais c'est sérieux. L'Admor HaZaken n'a pas dit qu'un tzaddik doit faire des miracles. Il n'a pas dit qu'un tzaddik doit communiquer avec Dieu. Il a dit un tzaddik, c'est celui qui a tué son yitzhara. Ça, c'est la définition. Donc, tout le monde naît avec un yitzhara.
Non, il l'a tué.
C'est impossible de ne pas avoir yitzhara. Il est né avec un yitzhara, mais il l'a tué. C'est-à-dire qu'il l'a supprimé. D'accord. Alors, la question qu'on pose, il dit, mais comment je peux savoir si je supprime ou pas? C'est impossible. Impossible. Donc voilà pourquoi Rabba, en toute humilité, là maintenant on comprend que c'est pas une fausse humilité.
De son vivant, de son existence, il a aucune indication.
Aucune, c'est impossible.
Aucune indication qu'il est ou qu'il n'est pas.
Impossible. Aucune indication.
Qu'il est à droite ou à...
Parce que même un Benoni peut être inspiré par Dieu. Aucune indication.
Donc ce qu'on vient de dire là, et par rapport à ce qu'on a dit dimanche, là on a l'impression que le fait de faire la tefila, ça a plus de force, plus de puissance que d'étudier la Torah pour battre le
Yitzhara. Oui. Pourquoi? Parce que
on a tendance à croire plutôt l'inverse.
Je vais expliquer pourquoi.
Parce que la tefila, c'est quelques moments. L'étude de la Torah, tu peux le faire tout le temps.
Parce que dans la tefila, c'est une guerre qu'on a avec le Yitzhara. La tefila, on se remet en question. Dans l'étude, ça ne m'oblige pas à me remettre en question. L'étude, j'étudie, c'est un sujet intéressant.
On est censé appliquer ce qu'on a appris après.
C'est vrai, mais ça ne m'oblige pas à me remettre en question. Je peux rester sur le côté intellectuel. Pas forcément, je peux rester sur le côté intellectuel et avancer comme ça. Vous avez des gens qui restent toute leur vie sur le côté intellectuel. Alors que dans la prière, forcément, si tu fais une prière sincère, tu te remets en question. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que je raconte là? J'ai Hachamnou, Bakaydou, j'ai fauté. Tu dis, mais c'est vrai, attends, j'ai fauté. Oh. Donc tu te remets en question. T'es obligé de te remettre en question.
Donc on peut faire une étude de Guémara, par exemple, pendant des années étudiées, et se considère comme étant mytho par rapport à...
Ah, je vais pas parler du mytho, le mytho c'est après, là, c'est tout de suite, là, justement.
Ouais, parce que si on dit que ça n'apporte pas et qu'on modifie pas le comportement,
justement.
Et qu'on n'applique pas, ça sert à rien.
Donc là, maintenant...
Tu perds du temps.
Là, maintenant, l'Admor HaZaken, maintenant... Oui.
Si tous les
les maîtres du Talmud et de la Mishnah et des Tzadikim. On voit plusieurs fois dans le Talmud où il dit il ne faut pas mettre à l'épreuve le Tzadara.
C'est ça qu'on a expliqué ici. Qu'on a expliqué ici.
Ils en ont plus dans cette solution.
Parce que eux, sur eux-mêmes, ils se disaient que peut-être on est Benoni.
Il était latent.
Ah, pourtant, ils ne sont pas attaqués. Ils ne savaient rien dire.
Non, mais ils disaient que c'était un ne provoquait pas le Satan.
Exactement, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire. Parce que, justement, maintenant, ils ne les attaquent pas, mais ils se disent peut-être qu'il est là. C'est ce qui explique l'équation, parce que c'est vrai, c'est une vraie question, ça. Quand on étudie la Gemara, hein, des fois, on a l'impression qu'ils ont des discussions très honnêtes par rapport à des problèmes de la vie, et on a un peu du mal à dire ça par rapport à un tzaddik. D'accord? Des choses, par exemple, voilà, t'as un tzaddik qui est là, qui vient avec ses élèves, ils sont partis libérer une captive, et le tzaddik, il dit, d'accord, bon, c'est Abayé, il dit à ses élèves, il leur dit, surveillez-moi la nuque, j'allais pas faire de bêtises. Il dit, attends, mince, c'est un tzaddik, ça. Tu dis cette histoire, ça te choque, c'est pas possible. Comment tu peux comprendre ça? Vous croyez qu'il avait des pulsions? Vous croyez qu'elle a dit ça parce qu'il avait des pulsions?
Non,
c'est grave si c'est la situation.
Ouais,
la réponse est très simple. D'après l'Éternel, moi je pense que la réponse est très simple. C'est qu'il se dit, puisque je peux être Benoni ou Tzadik, donc je n'ai pas idée quand les Tzara peuvent m'attaquer, donc il faut faire attention.
Donc
c'est pour ça que c'est écrit Al Tamin Batsma Radium Motar, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, tu sais pas qui tu es. Ne crois pas que tu sais qui tu es.
C'est ce que me disait mon père.
Il
me disait,
il y a quand même des gars où ça peut
n'aie pas confiance en tes propres genoux, parce que tu sais pas où il va t'amener, à gauche ou à droite. Le bon chemin à droite, à gauche, et t'as envie d'aller à droite, il t'amène à gauche.
Si on se met à sa place, il dit « je me gère les gens », c'est pour moi que j'ai appris pour faire sortir les ministres.
Il sait que c'est quelqu'un de bien. Donc là, Avner, il prend un autre angle, il dit « d'un autre côté, il faut être conscient de ses qualités ». Pas constamment se remettre en question. C'est une très bonne question ce que tu poses. On va en parler dans la suite. Ouais. Puisqu'encore une fois, on va parler de l'humilité. Moshe Rabbeinu, on dit que c'était l'homme le plus humble sur Terre. Pourtant, quand on étudie la Torah, on voit qu'il avait du cran quand même. Bon, quand il fallait parler... Alors justement, donc on a peut-être une mauvaise image de ce qu'est l'humilité. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est dans la suite. Bon, c'est pas si simple que ça. C'est la base, mais c'est plus compliqué que ça. Là, maintenant, on va essayer juste de s'arrêter sur la notion du émet, la vérité.
Il y a peut-être que des bénonies.
Il y a plus que.
Il y a peut-être plus que des bénonies.
On sait qu'il y a des tzadikim, parce que nous, comme ça, en tout cas, on a la émouna. Mais la personne elle-même, il a aucune manière de savoir s'il est bénonie ou tzadik. En tout cas, le bénonie ou tzadik du Tania. Ok. Alors maintenant, je vais revenir sur le thème, la question qu'on se pose maintenant, c'est la notion du mytho. Oui.
Sur noir.
Oui.
La Torah elle-même, elle témoigne que le noir, c'est un tzadik.
D'accord.
Pourtant, on dit que la différence qu'il y avait entre noir et Abraham Avinu, pourquoi Abraham Avinu a mérité que la génération ne soit pas découpée de noir, c'est-à-dire qu'on a été déprimé, parce que noir n'a rien fait pour sauver.
C'est
ça. Ça peut pas être un tzadik.
Noir n'était pas un tzadik du Tania.
Alors c'est quoi ? C'est un tzadik de quoi ?
Il est tzadik dans le din.
Ah, dans le din, d'accord.
Dans le din.
Mais je pense
dans
que
le fait de veiller
peut-être
à Dieu.
Je parle pas de noir, hein. Peut-être qu'il était aussi. Mais quand la Torah dit tzadik.
Moshe Rabbeinu, on dit plusieurs fois, Balidekaz,
c'est pas grave ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tzadik.
Ah, c'est quoi Kaz ?
C'est pas forcément du Yitzhara.
Il y en a plusieurs fois.
C'est pas forcément du Yitzhara. On peut avoir un Kaz du Yitzhara aussi. Non, c'est pas.
Pourquoi Balidekaz ?
Tu peux te.
Parce qu'il fallait pas s'énerver. Non, c'est pas si facile que ça.
Il fallait pas s'énerver, c'était mauvais.
Non, on a. Attendez, il faut que ce soit clair. Nous, dans l'âme Israël, on a la Emouna, que les tzadikim, d'accord, que les tzadikim comme Moshe Rabbeinu, comme les tzadikim qu'on a connus, sont des tzadikim.
Des vrais
schémas particuliers. Oui, c'est des schémas particuliers. Bien sûr, bon, qui ont des pulsions comme tout le monde, mais qui ont, qui ont la capacité, quand ils veulent, ils peuvent réactiver leur Yetzara, mais qu'ils ont la capacité, quand ils veulent, d'éteindre leur Yetzara. Ils ont cette capacité. Seulement, eux-mêmes, en tant que tzadikim, ne se prennent pas pour les tzadikim. Comme ils disent, Moshe Rabbeinu, il dit, Venach Nouma. Il dit, mais qui je suis, moi? Tu crois qui tu es? T'es Moshe Rabbeinu, toi, c'est vrai qui je suis, moi. D'accord? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il dit, Venach Nouma? Aaron, il dit, Venach Nouma. Il dit, mais qui sommes-nous? C'est pas un tzadik, Aaron? Bien sûr, c'est un tzadik. Seulement, à son niveau, il ne se prend pas pour un tzaddik. Mais là, maintenant, je pense qu'on va mieux comprendre. On va mieux comprendre cette notion-là après la suite du cours, là, après ce qu'on va expliquer maintenant. Là, la question qu'on va revenir, on va expliquer maintenant par rapport à la notion du, on a dit, du émet. D'accord, du émet. Alors, écoutez l'exemple qu'il va dire ici. Tout à l'heure, on a expliqué que quand on fait une tefila, on a la capacité de faire taire son Yitzhara. Très bien, ça c'est le rôle du Benoni. Le Morazakan, il pose une question très simple. Il dit, mais finalement, alors, imaginons que tu fais une tefila qui va durer 2 heures. Super tefila. Tac, ça décolle et tout, tu te sens dans les olamot, tu te sens dans les mondes. Mais qu'après, concrètement, dès que la tefila termine,
tu retombes.
Alors,
ça fait mal.
Non, c'est pas seulement que ça fait mal. Quelle valeur a ce sentiment que j'ai eu de moi-même pendant 2 heures?
J'ai volé.
D'accord? Quelle valeur a ce sentiment dans lequel tu me dis que j'ai quelque part éteint mon Yitzhara? Puisque je sais que de toutes les façons, après mon Yitzhara est revenu. Alors, en d'autres termes, est-ce que je ne suis pas en train de me convaincre de quelque chose que je ne suis pas? Chez un tzaddik, si on parlait d'un tzaddik comme il avait expliqué tout de suite, là, Bémet, le tzaddik, il peut dire que, enfin, lui ne le dira jamais sur lui, mais nous, on sait que le tzaddik, Mamash, maintenant, dans 2 heures, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, il sera le même. Donc là, il peut dire, j'ai opéré un changement en moi. Mais moi, maintenant, je vais faire un effort pour faire une tefila, je vais dire, ah, j'ai opéré un changement en moi. Tac, ça a tenu 2 heures. Et hop, après, je retombe. Et finalement, je vois que le changement n'était pas un vrai changement. Donc, l'Admor HaZaken, il pose la question, il dit, mais finalement, opérer des changements qui ne sont pas des changements, est-ce que c'est pas quelque part du mytho? Est-ce que c'est pas quelque part un mensonge? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-suggérer qu'on fasse des choses alors qu'en vérité, on sait qu'on n'est pas à ce niveau-là? D'accord?
Tu avais dit au début du Tania, quand on avait commencé à étudier, que quelqu'un qui mange un truc pas cacher, même si après il fait de chouva, ce qu'il a mangé, ça rentre dans son corps,
sûr,
c'est une partie intégrante. Oui, quand quelqu'un fait une bonne action, même si après il fait toutes les mauvaises actions du monde, ce qu'il a fait comme bonne action, c'est une partie intégrante.
Tu as raison. C'est vrai, ce que tu dis est parfaitement vrai. Mais, ça ne change pas que ça répond pas à la question, que, on a, si tu veux, on a un bon sentiment quand on fait par là. On va parler par exemple de Rosh Hashanah Yom Kippour. On va arriver à Rosh Hashanah Yom Kippour. Par exemple, à Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, t'as un bon sentiment. T'as un bon sentiment, tu sens. D'accord. T'as un bon sentiment. La question qu'il te pose, il te dit, mais finalement, ce bon sentiment que tu as, que tu es quelqu'un de bien et que tu avances, est-ce que c'est pas quelque part du mensonge? Alors attendez. Pour répondre à cette question. Il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est la vérité. Ah, ça c'est le vrai problème. Pourquoi on a du mal à être sur la même longueur d'onde? Parce qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est la vérité. Alors je vais faire un tour de table et je vais vous poser la question. Donnez-moi la définition d'après vous. Qu'est-ce qu'est la vérité?
Qu'est-ce qu'il faut par vérité, quoi? Le chemin que Dieu nous demande de...
Je sais pas. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. On fait un cours de philo. Je vous pose une question. Donnez-moi une définition de la vérité. Allez, je commence par ma droite.
La vérité, oui, ou... la vérité, c'est ce que je vais dire, j'y crois à 100%.
D'accord. Vérité, et si demain tu n'y crois plus?
Ce sera la vérité de demain.
Voilà, je sais que Dieu existe. Voilà, ça c'est la vérité.
Non. Donne-moi la définition de la vérité. Qu'est-ce qui fait que c'est vrai?
Voilà, Dieu existe. Voilà.
D'accord. Ok.
Non, mais c'est pas la définition de la vérité.
La réalité.
Non, c'est notre vérité, chacun sa vérité.
Ah, oui. C'est juste. Hein.
Ni avant,
quand
ni
tu
après.
Quand tu dis que t'as ta vérité.
Quelque chose qui ne peut pas être remis en question. Avner.
Pour moi, c'est quelque chose que bien que tu remis en question reste inébranlable.
Inébranlable, d'accord. Ok.
Très juste.
Ce qui est vrai, c'est
quelque chose de concret.
Quelque chose de vrai et de concret. D'accord. D'accord. Ok. Marcel.
Oui, moi, c'est le
problème. Non. Dieu existe, d'accord. Ok.
Chacun sa vérité.
D'accord. Ah, donc il n'y a pas une vérité, ultime.
Non, il y a deux vérités.
Non, d'accord.
Il y a une vérité absolue.
Chacun sa vérité.
D'accord. Ok.
La même chose, c'est la définition des cours de philo. Le premier cours de philo, c'est qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Et en fait, il y a une vérité par individu. Après, bon. On parle des vérités.
Ouais. Ça, c'est faux, ça.
Bon, ok. Alors, j'ai entendu. Oui, pardon.
Non, mais après, je terminerai.
D'accord, vas-y. Abraham.
La vérité, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, qu'on nous a rentré dans la tête.
Et qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Bon, d'accord.
C'est juste ça. Abraham me dit que c'est vrai.
Donc, d'accord, ok.
Alors, il y a la vérité. Dans le sens tout ce qui peut être stable, immuable, intemporel,
oui.
Moi ça peut être la vérité. Et ensuite tu as la vérité à l'échelle je dirais individuelle, chacun pense ou relativise la vérité par rapport à lui.
D'accord, ok.
Pour moi il y a les deux aspects.
Il faut s'assurer les deux aspects. Non, c'est un point important ça aussi.
C'est bon. Alors pour définir la vérité, il faut la définir de deux manières. De manière absolue, celle qui est universelle, partagée par tous, et qui est incontestable. D'accord. Donc, sur des bases qui sont soit on va dire, d'ordre spirituel sur des croyances, soit sur des choses concrètes. Et la vérité, après, qui descend, c'est comment les individus, sur des principes, sur des bases, sur des valeurs, vont légitimer et certifier que c'est la vérité. D'accord. Et après, ils vont se l'approprier et ils vont l'appliquer.
D'accord.
J'ai bien compris.
Bon, alors, écoutez, j'ai un problème.
Mais par contre,
j'ai entendu ce que vous avez dit.
Dans l'application, chacun va la percevoir d'une optique différente. Oui.
Tout ce que vous dites, d'accord, c'est vrai.
C'est la vérité.
Merci. Alors, seulement, regardez, il nous manque encore, je pense, enfin, en tout cas, il nous manque encore une définition importante, quelque chose de très important. Imaginez que 95% du monde ne croit pas en Dieu.
Est-ce que c'est la vérité ?
Et que nous, on est 5%, donc on est ultra minoritaire, à croire en Dieu. Est-ce que le fait qu'on est minoritaire fait que notre vérité est moins une vérité ?
Non. Non, c'est pas en termes quantitatifs.
D'accord. Mais qui me dit que je tiens la vérité ? Quel est l'indicateur que je tiens la vérité ? Alors, je vous donne une réponse. La réponse est très simple.
Bah, c'est par rapport.
La réponse est très simple. Et d'ailleurs, on appelle Torat Emet. Hachem Elohim Emet. D'accord ? Quelle est la définition de la vérité ? La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit que la définition, si on devait donner une définition de la vérité, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais si on devait donner une définition qui rend une chose vraie, la vérité, c'est quelque chose qui ne change pas et qui ne peut pas changer. Alors, j'explique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pourquoi on appelle Torah Emet ? Parce que les principes de la Torah étaient valables il y a 3300 ans. Ils sont valables aujourd'hui. D'accord ? Et ils le seront dans 2000 ans. On ne les adaptera pas par rapport à la génération. Les principes qu'ont les goïms dans la vie aujourd'hui, qui sont des principes importants,
et pas seulement
d'accord, et pas que les goïms, sont des principes qui ont changé avec le temps, qu'on a adapté par rapport à la situation. Ça veut dire que c'est la situation qui a créé la société, qui a créé la manière de vivre. Dans la Torah, c'est le contraire. C'est la Torah qui crée la manière de vivre. C'est pas le contraire. C'est pas la société qui a créé l'enseignement.
Tu parles de s'adapter.
C'est la définition qu'ils donnent dans ils disent la vérité généralement dit comme la confirmité ou la fidélité d'une idée ou d'un jugement avec son objet.
Ah ouais, attends.
Il faut que ça colle aussi à l'objet. Si l'objet change, la vérité elle peut changer.
Oui. Ah, justement, ça c'est pas l'approche de la Torah. Non, l'approche de la Torah, c'est que la vérité c'est quelque chose qui ne change pas. Où on apprend ça? Parce que c'est écrit. Que on devait prendre, vous savez que quand il y avait la purification avec les cendres de la vache rousse, on devait mélanger les cendres de la vache rousse avec de l'eau vive, de l'eau vivante, d'accord ? Alors justement, de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau d'une source. Et la Gemara là-bas dit, ça veut dire quoi de l'eau vivante ? Elle dit, ça veut dire, c'est de l'eau qui s'arrête jamais. Et la Gemara a dit là-bas, ma'im amechazvim, de l'eau qui ment. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout de suite. De l'eau qui ment, c'est pas cachère. Alors la Gemara dit, mais c'est quoi de l'eau qui ment ? Elle dit, c'est très simple. Elle dit, par exemple, s'il y a un torrent qui s'arrête une fois tous les 10 ans, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 50 ans. Pour nous, du fait que ce torrent s'arrête une fois tous les 50 ans, même si maintenant, ça fait déjà 15 ans qu'il ne s'est pas arrêté, 30 ans qu'il ne s'est pas arrêté, comment c'est ? Vas-y, Tom. Il n'y a pas de problème, Ça va bien, ça va ?
C'est fait exprès parce qu'il a enlevé le livre.
Comment on l'a enlevé ? C'est sans alcool.
C'est parce que tu l'as enlevé.
C'était trop, là.
Ça bouge.
Il va me servir mon cahier.
Il n'y a pas de problème. Alors, donc je continue la définition. La Gemara, elle dit là-bas, elle dit Maïm Amechazvin, elle dit comme c'est de l'eau qu'on sait. Qu'elle s'arrête,
du cocaïne,
d'accord. Comme on sait que c'est émet, d'accord, que c'est quelque chose qui s'est arrêté et ou qui va s'arrêter parce qu'on sait qu'il s'est déjà arrêté. Donc ça s'appelle pas du émet parce que c'est quoi le émet? Le émet c'est quelque chose qui ne change pas. Donc d'après ça maintenant, si on a cette nouvelle définition du émet qui est que le émet c'est pas seulement quelque chose comme tout ce que vous avez dit tous, hein, d'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui, je sens que c'est la vérité, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que ça correspond à l'objet, parce que c'est sincère. Bon, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais la Torah te donne une définition, elle te dit, c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est quelque chose qui change pas. Ça nous pose un grand problème, ça, par rapport au Benoni. Parce que, si tu dis que le Benoni, il arrive à se travailler tous les jours, mais que finalement, il retombe à chaque fois. Ça veut dire que c'est pas du Emet. Parce que si c'est du Emet, normalement, quand je dis, je fais teshuva, c'est du béton. Ça veut dire que j'ai changé et que c'est fini. Quand tu dis, alors deux secondes. Quand tu dis que j'ai changé et que concrètement tu sais très bien que demain tu sais que en vérité t'as pas changé ou que Le changement que tu as opéré en toi a duré que 24 heures.
C'est maintenant.
Donc je pose la question, je repose la question, je dis dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un vrai changement? Oui ou non? Et c'est là que l'Admor HaZaken, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai changement? Est-ce qu'on peut dire que c'est pas l'autosuggestion? Mais il faut être honnête, c'est comme dans le business. Il y a des gens, ils pensent qu'ils gagnent des sous. Et ils se convainquent qu'ils gagnent des sous. Et après, quand ils ont fait, ils disent, ah, je me connais pourquoi j'ai fait faillite. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir poser les bonnes questions. Il faut, quand il y a un problème, il faut le dire. Donc l'Admor HaZaken, il dit, est-ce que quelque part, c'est pas faux? Est-ce que c'est pas des choses qu'on se suggère, qu'on a avancé, alors qu'en vérité, on a avancé rien du tout?
Voilà, ça incite pas à faire toujours. Hein.
Donc, en vérité, il nous faut maintenant, une nouvelle définition de la vérité. Et là, l'Admor HaZaken, alors ça va peut-être un peu vous choquer ce que je veux dire, mais l'Admor HaZaken va nous donner deux définitions de la vérité. Il y a la vérité de la vérité, et il y a la vérité tout court. Alors ça fait un peu bizarre. C'est comme le jeune dit, mais je te jure, la vérité de la vérité. Ça veut dire qu'il ment, quoi.
La vérité, si je mens.
Ça veut dire quoi, la vérité de la vérité? C'est-à-dire d'habitude, tu mens? Mais ça, je te jure, c'est la vérité de la vérité.
Ouais, enfin, plus que la vérité. La vérité vraie.
Alors, c'est comme Admor HaZaken d'expliquer.
La vérité.
D'accord. Admor HaZaken va expliquer, et c'est un peu ce que plusieurs ont dit, c'est que chacun sa vérité. C'est que la clé de la réponse va être la chose suivante. C'est que on a la vérité absolue. La vérité absolue, c'est comme le tzaddik. C'est qui dit j'ai tué mon Yitzhara, il l'a tué son Yitzhara. Il est mort. Et c'est la vérité. Dans 50 ans, tu peux revenir, son Yitzhara, il n'est plus là. Ça, c'est la vérité d'un tzaddik. C'est une vérité qui est immuable. Après, on a la vérité des gens comme nous. C'est pas une vérité absolue qui va tenir dans le temps. D'accord? D'accord? Mais, dans l'instant, le sentiment que tu as est appelé une vérité. C'est ce que je sens. Alors, la question qu'on pourrait se poser, on va dire, mais finalement, quelle valeur ça a, puisque de toutes les façons, on sait que c'est éphémère, c'est temporaire. Alors, c'est là que l'Admor HaZaken va expliquer. Il va dire que c'est pas de notre faute. On a été créé comme ça. J'ai un Yetzer Hara qui est très fort. Et le fait même que j'ai réussi à tenir une heure, deux heures, trois heures, alors j'ai vécu dans des moments de vérité. Est-ce que ça veut dire que j'ai opéré un changement réel? C'est vrai que non, tu as raison que non. Mais au moins, hein, quelque temps, se sentir un petit peu dans une ambiance de vérité, c'est pas si mauvais que ça. L'Admor HaZaken va rajouter un autre point qu'on va développer dans la suite. Plus dans ce chapitre-là. Elle va dire, le fait même que tu es capable de reproduire cette vérité quand tu veux, ça s'appelle déjà une vérité. J'explique. Le fait même que le Bédoni, il sait que son Yetzer Hara va le réattaquer. Mais il sait que demain matin, il pourra recommencer la tefila. Il sait que l'année prochaine, il y aura encore un Rosh Hashanah. Donc, il sait que ça va se reproduire. Le fait que tu sais que tu peux le reproduire et que tu sais que tu as la formule pour le reproduire, on peut dire qu'on a une formule qui tient dans le temps. C'est vrai que concrètement, je ne l'ai pas ressenti toute l'année, mais comme cette formule, je peux la reproduire, et je peux la reproduire sans fin, mes enfants ont pu la faire et moi je peux la faire, j'ai la formule qui marche.
Donc,
la formule est vraie. Peut-être que le sentiment que j'ai senti n'était pas vrai à 100%. La preuve, j'ai pas changé à 100%. Mais la formule que j'utilise est vraie. La preuve, je peux la reproduire quand je veux. Elle a été faite par nos ancêtres il y a 3300 ans. Je la fais maintenant. Et dans 2000 ans, on pourra encore la faire.
C'est une recette, en fait.
Voilà. Donc la recette est vraie. Bien que le sentiment que j'ai ressenti n'était pas forcément vrai. À 100%. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais ça peut marcher sans être vrai.
Ça peut?
Ça peut marcher sans être vrai.
Tu as raison.
Mais ça marche constamment.
Il n'y a pas de problème, ça, avec ça. Seulement, l'Admor HaZaken, ce qui le dérange, c'est qu'il veut savoir est-ce que le sentiment que j'ai, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Ça peut déranger beaucoup une personne, ça. Là, parce qu'à un moment, il se dit, mais finalement, est-ce que je suis pas un mytho?
Tu parles de sincérité, là.
Donc là, c'est pour ça qu'on va parler de Emet, la mytho. Alors. C'est vrai en plus. La vérité de la vérité, comment on appelle la vérité de la vérité en hébreu? Emet la mytho.
Ah oui.
C'est les mondes à l'envers, exactement. Ouais, voilà. Bon.
Il a raison, mon ami de ma droite, il y a une différence entre sincérité et vérité.
C'est vrai, parce que c'est ce qu'on est en train de dire ici maintenant. Tu peux être sincère.
Tu peux être sincère en disant des conneries.
C'est ça la réponse qu'il donne ici. Il donne une réponse très simple. Et c'est ce qu'on va développer maintenant.
Les diplomates, ils font ça.
C'est pas
vrai. Regarde. Nous, on veut être dans le Emet. Torah Emet, Tatan Lanou. Dieu nous a donné la Torah de vérité. On a un Dieu qui est Emet, qui est vérité. Qui est notre indicateur de vérité parce qu'il ne change pas. Et on essaye d'être vrai au maximum. Donc c'est pour ça que ça nous dérange. Quand tu dis que chaque année je promets que je fais teshuva, chaque matin je promets que je fais teshuva, et qu'après au bout du compte je vois que chaque année je refais teshuva, je me dis mince, il y a un problème. C'est la question que tu as dit tout à l'heure. C'est la réponse qu'il va te donner maintenant. Il va dire tu as raison, dans l'absolu tu as raison. Que c'est pas, tu peux pas dire que tu as réellement changé, et que Béhémeth, le tzaddik lui, il a réellement changé. Seulement, il te dit, c'est vrai que dans l'absolu, tu n'as pas changé à 100%, mais la formule que tu as utilisée, comme elle peut être reproduite tant quand tu veux, et que la formule marche toujours, donc la formule est vraie. Donc le sentiment que j'ai eu grâce à cette formule, lui aussi, est vrai. Bien que, je ne peux pas dire que le changement qui a été opéré en moi est un changement qui est éternel.
Mais ça t'a permis de parler
de ça. Pourquoi on va chercher tout ça ?
Parce que je vais me poser la question, est-ce que le sentiment que j'ai eu pendant Neila, pendant Neila, est-ce que c'était quelque chose de vrai ou de faux ?
Ah, même si c'était faux, qu'est-ce qu'il y a que ça change ?
Si c'était faux, c'est grave, on ne peut pas vivre dans le faux. Ça ne marche pas, la Torah, c'est Torah Emet. On ne peut pas accepter de vivre dans le faux.
En somme, tu es en train de...
Non ? Parce que quelle est la différence entre notre Torah et toutes les autres religions? C'est que les autres religions, les autres choses, ils s'adaptent. Nous, on s'adapte pas.
Non, je parle pas de ça. Excuse-moi, j'ai mal posé le truc. Tu me dis.
Bien sûr, c'est l'islam. Tout le monde s'adapte. Bien sûr.
Tu dis.
Ils ont pas le droit de tuer les juifs normalement.
Tu étais à l'année hier, tu as senti que c'était.
Ah, mais ils gênent pas.
Mais en réalité, tu t'es menti à toi-même? Je sais pas.
En 1200.
Peut-être, je sais pas. C'est ça que tu viens de dire?
Ben oui. Est-ce que je me suis convaincu de quelque chose qui est faux?
Est-ce qu'on peut se mentir à soi-même?
C'est possible que ce soit faux.
D'accord.
C'est possible que ce soit faux.
Bien sûr que c'est possible. Alors, mais est-ce que concrètement, le fait. Ça veut dire.
Mentir de toi-même ou de l'autre. Mais tu peux pas mentir de toi-même.
Au moment où je le vis, je sens que c'est vrai. Regardez.
Un mytho, c'est ce qu'il fait tout le temps. Un mytho, c'est un mec qui se
demande. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Au moment. Regardez. Je vais répondre à la question. Je vais rajouter un élément et je vais donner un exemple après les questions. En bataille.
Mais oui, mais c'est ça,
au moment où je dis que je vais le faire, au moment où je dis que je vais m'arrêter, je suis Emet. Mais puisqu'on voit que dans la pratique, un mois plus tard, eh ben, je recommence avec les mêmes bêtises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment que j'ai eu était faux.
Non, pas du tout, pas du tout.
Pourquoi j'ai pas réussi?
J'ai pas été capable. Parce que après, il est plus fort, moi, Sarah, c'est tout.
J'ai pas été capable.
Donc ça veut dire que j'ai pas opéré un vrai changement.
Ça veut dire que j'ai pas eu la volonté assez de faire force.
Donc ça veut dire que le sentiment que j'ai cru que j'avais opéré en moi pendant Jachana est faux.
Non, ou alors.
Moi, j'ai cru que je cherchais, j'ai pas changé. Je vais te donner un exemple. Je voulais donner un exemple. Imagine-toi, par exemple, tu as un enfant qui se comporte mal à l'école. Ça peut arriver. D'accord? Tu as un enfant qui se comporte mal. Et ses parents sont vraiment pas contents. Ses professeurs sont pas contents de lui. Bon? D'accord? En bas, t'as vu, écoutez? Imaginez, vous avez donc un enfant qui se comporte mal. Il est pas sage. Et ses parents, ses professeurs sont pas contents de lui. Et l'enfant, il te promet avec une sincérité. D'accord? Il te promet avec une sincérité. De tout son cœur, il pleure avec des pleurs, etc. Il te promet, tu dis, mais papa, je te promets, je recommencerai plus. D'accord? Et bon, à bataille, j'arrive pas à me concentrer là. Alors, servez-vous, et après on continue.
Voilà. Tequila.
J'attends.
Je sers. Yves, attends. Il va faire le tour.
C'est bon. Alors, cet enfant-là, il est sincère. Il te dit de tout son cœur, papa, je recommencerai plus. Et concrètement, après, eh ben, il va retomber. Est-ce que ça veut dire que sur le moment, il n'était pas sincère?
Il n'était pas sincère.
Il était sincère. Mais est-ce que la promesse qu'il a faite était vraie?
Oui, les enfants qui pleurent sont.
Alors, vrai de vérité, elle n'est pas.
Non, il n'est pas.
Parce que ça n'a pas tenu dans le temps. Mais, comme il sait, que même dans un an, même dans deux ans, le jour où il décidera, il peut redécider encore une fois de refaire teshuva. Donc, il peut dire, ce que j'ai promis était vrai. Ah, ça n'a pas tenu. C'est vrai que ça n'a pas tenu et que j'ai pas changé. Mais du fait que je suis capable de reproduire quand je veux, ça c'est vrai. Cette formule est vraie. Ça veut dire, cette capacité que j'ai en moi de changer, ça c'est du vrai.
Mais en somme, tu es en train de dire qu'il ne faut pas abandonner. Tout simplement.
Exactement. Voilà.
Parce que tu te décourages, tu arrêtes.
Voilà.
Tu dis, c'est plus la vérité, c'est plus ceci, c'est
ça
plus
ça. Ça veut dire, on s'adresse à la personne, on lui dit,
on peut recommencer.
Tu as la bonne formule, elle marche.
Mais
elle est éphémère, mais elle marche. Et elle pourra marcher. Et pourquoi j'appelle ça une vraie formule? Parce que c'est une formule qui était applicable il y a 3300 ans et qui est applicable encore aujourd'hui. Et qui est applicable en 2000 ans. Donc la formule est vraie. Donc il y a du vrai.
Toute ta vie, tu fais ce que
tu peux dérailler rapidement.
Ce que tu dois te concentrer, c'est sur la formule. Si ça va marcher aujourd'hui, c'est pas grave, ça marchera peut-être demain.
Mais la formule est
non, c'est là ce que dit Al-Morzakhen. Il te dit plus que ça. Il te dit pas seulement, je dois pas me dire après Rosh Hashanah, un mois après Rosh Hashanah, je dois pas me dire ce Rosh Hashanah en vérité c'est du mytho, c'est du bluff. Non, je dois pas me dire ça. Je dois me dire mon Rosh Hashanah était vrai et le sentiment que j'ai eu pendant Rosh Hashanah était un vrai sentiment. Ah, pourquoi je suis retombé? Oui. T'avais la bonne formule, la formule était parfaite. Seulement le Tzara est refait tomber. Mais ce que tu as ressenti pendant Rosh Hashanah, c'était vrai. Ah, si c'est vrai, ça aurait dû tenir. C'est vrai que ça n'a pas tenu, mais puisque la formule, je peux la reproduire quand je veux. Donc ça, la formule est vraie.
Pour que ça tienne.
Tu vois ce que je veux dire? Si je n'étais pas capable, je termine le raisonnement. Si je n'étais pas capable de reproduire cette formule quand je voulais, si la formule marchait seulement aujourd'hui, mais qu'elle ne marchait pas il y a 2000 ans, là, on te dit c'est du faux. Ce que tu as ressenti, c'est peut-être du faux. Mais comme je suis capable de le reproduire quand je veux, ça veut dire qu'il y a une notion immuable dans ça. Donc ça, c'est pas quelque chose de vrai.
C'est comme oui. Si on faisait teshuvah toute sa vie.
Oui, on peut dire ça. Bien sûr, on peut dire ça.
Quelle est la différence, quelle est la différence entre la Neila, les Avdil, et une transe africaine?
C'est quoi ça, une transe?
C'est des gens qui arrivent avec en chantant, machin, en train d'une transe. Où ils arrivent. En tout cas, c'est quelque chose qui ne change jamais. Ils arrivent tout le temps à la même chose.
Tu as raison, oui, pas de problème.
Mais est-ce qu'ils... C'est pas vrai ce qu'ils font.
C'est du faux.
C'est du faux, mais pourtant c'est... ils arrivent tout le temps à faire.
Parce que nous...
Ok.
Parce que pour nous, notre seul indicateur de vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que Dieu a dit que c'est vrai, pour nous, on sait que c'est vrai. Parce que sinon, comme il a dit tout à l'heure en philo, il n'y a pas de vérité.
Non. Donc, le fait que ça se répète.
Il y a plusieurs vérités.
Non, mais le fait que ça se répète n'est pas signe de vérité. C'est universel
pour tout un chacun.
Voilà.
Genre, n'importe quoi, si on parle du rôle des lois de la pesanteur.
Donc il n'y a pas de vérité.
Les lois de la pesanteur, c'est une vérité, puisqu'elle était, elle est, elle sera. Sauf que Kadosh Baruch Hu, il décide de
contrôler. Très bien.
Et puis après, chacun des hommes a sa vérité.
D'accord.
Donc la vérité de France est différente, pour globaliser, avec celle du pays d'à côté.
Maintenant, pour moi, quelle est la vérité immuable? Quel est mon indicateur?
Parce quelle vérité qui sera?
Mon indicateur de vérité, c'est la Torah. C'est ce que Dieu a dit. Comme je sais que Dieu est la vérité, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que j'ai une preuve de ça? Non, j'ai pas de preuve. Mais t'es obligé d'avoir...
Si, on a eu. Quand il a donné les 10 commandements, les 10 paroles.
C'est pas une preuve, ça.
T'as 600 000 personnes, le monde entier, les a entendus.
C'est 600 000 personnes.
Vous avez raison. C'est une émouna, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve.
Et les chamottes, alors qu'ils se reproduisent.
C'est une preuve, ça. C'est une croyance. C'est une croyance qui est solide, qui est très solide et qui peut s'expliquer. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Une preuve, c'est quelque chose que je peux te démontrer maintenant.
Bah aujourd'hui, on a retrouvé des. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps. Et le mur.
Mais c'est tous les, très simple. S'il y avait des preuves que Dieu existe, tout le monde croirait en Dieu.
Non.
Mais si.
S'il y avait des preuves démontrables scientifiquement que Dieu existe, il n'y a pas. Il n'y a pas de preuves. C'est une émouna.
Tu leur mets le fait accompli, ils croiront jamais.
Va me l'expliquer.
Regarde ce qui se passe à Gaza.
Bon. Tout peut s'expliquer.
Oui, non.
Mais il y a des choses, il dit bon, ok, c'est la nature. Là, il va placer la nature. Mais moi, c'est vraiment pas le thème. Rabotage, je veux juste revenir sur la vérité. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de bâcler ce sujet-là. Et la semaine prochaine, on va revenir dessus parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Il y a pratiquement, voilà, vous voyez, il reste où on est arrivé. Voilà. Et ben, il reste une page. Que sur ça. Que sur ça. Sur la notion de comment définir la vérité. Il y a la vérité de la vérité et la vérité, ce qu'on a expliqué, c'est le fait d'avoir une formule qui marche. Donc, il va amener plusieurs gmarotes, on va parler de Yaakov Avinu, on va parler du Mishkan, on va parler d'énormément de choses, de repères de vérité qu'on avait dans le monde. Très très important ce qu'on va faire la semaine prochaine. D'accord? En tout cas, le but où il veut nous amener ici, il veut te dire, ne crois pas que le sentiment que tu as eu dans ta tefila est faux. C'est pas parce que ça n'a pas tenu que c'était faux. C'était vrai, mais bon, comme tu peux le reproduire, ça s'appelle la vérité. C'est vrai. Que nous, on aurait aimé être comme les tzadikim, que quand il a obtenu quelque chose, pac, ça bouge pas. Mais on n'est pas les tzadikim. D'accord? Comme imaginer une personne, par exemple, et il s'est accroché avec sa femme, ils ont fait la paix. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à la mort, il va plus s'accrocher? Ah, s'ils sont accrochés, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la paix. Non, ça marche pas comme ça. D'accord? C'est quoi le pshat? Ça veut dire qu'en vérité, s'ils sont raccrochés, ils ont dit, ça y est, c'est fini, maintenant on fait la paix. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, après, ils sont raccrochés. Ça veut dire qu'en vérité, ils n'ont pas fait la paix. On te dit non. C'est vrai que si on réfléchit comme un tzadik, qui te dit quand je dis quelque chose, ça bougera plus. Mais on peut pas réfléchir comme ça, on n'est pas comme ça. Donc pourquoi on dit que c'est quelque chose de vrai? C'est quelque chose de vrai parce que je peux le reproduire quand je veux.
Parce que la vie n'est pas...
D'accord. Alors, mais ça, c'est une notion que, en vérité, ça va devoir nous amener à une question que tu as posée toi plusieurs fois. À savoir, et là on va commencer à toucher à ça, à savoir qu'on va comprendre qu'en vérité dans le monde, il y a deux pistes. Il y a la piste des tzadikim et la piste des autres. Et c'est pas les mêmes pistes. C'est-à-dire qu'un tzadik, quand il fait quelque chose, c'est du dur, ça bouge plus. Nous, quand on fait quelque chose,
c'est du mou,
mais je peux le refaire quand je veux.
Et si on était tous des...
Et là, mais on va expliquer que chacun a son but. Mais c'est très important à comprendre ça. Parce que sinon, on peut démoraliser très rapidement.
Alors, juste une question, Mandy.
Ah oui.
Quand
tu mets la peinture à chaque fois, ça tombe. Attends. Oui.
Quand tu dis on n'a pas de preuves.
Oui. Alors, Serge, tout oublie, ne rentrez pas dedans.
Non, c'est
pas le thème.
Non, mais tout ce qu'on a, tous les épisodes qu'on a depuis la création du monde jusqu'à maintenant.
C'est pas une preuve, ça.
C'est pas des preuves, ça.
Pas du tout. Non. Qui vous a dit que c'est vrai? Vous avez une preuve que c'est vrai?
Attends.
On te le dit. Sinon,
vous avez une preuve?
Bah
oui. Mais la Torah.
Est-ce que vous avez une preuve?
Ça, c'est la foi. Pour nous, seulement. C'est la foi.
Nous, on sait que. Si vous voulez, on est là.
Il y a des éléments naturels.
Je veux juste répondre à la question.
Comment tu veux les expliquer alors?
Je réponds. On a des certitudes.
Mais il y a des gens qui n'y croient pas.
L'état de la loi, tu as vu la
génération. La Kedah d'Israël, elle a écouté parce qu'elle a lu, puisque même les musulmans. Le même les catholiques ont la
prière. Ah, bataille, t'as pas un truc là? Alors, drink. Alors, à bataille. On a la certitude, d'accord, comme ça explique le commentaire. On a évidemment la certitude que Dieu existe. Pourquoi? Et d'ailleurs, beaucoup plus que les autres religions. Parce que les autres religions sont basées sur une personne, un témoignage d'une personne qui a dit Dieu m'a parlé. C'est soit vrai, soit faux. Alors que nous, c'est pas basé sur une personne. C'est basé sur 600 000 hommes plus les femmes et les enfants qui ont senti, d'accord, et qui ont entendu Dieu qui leur a parlé au Mont Sinaï et qui l'ont raconté à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants et nous, nos parents, mes parents l'ont raconté et ses parents l'ont raconté. Donc ça veut dire qu'on a la certitude que c'est vrai. Mais, deux secondes. Ça s'appelle une certitude, ça. C'est une croyance, c'est une certitude, mais ça s'appelle pas une preuve. C'est pas une preuve scientifique. C'est pas quelque chose que je peux démontrer. Une preuve scientifique, c'est quelque chose que je peux démontrer maintenant. Maintenant, je peux dire, voilà, tac, tac, tac. A plus B est égal à C. Ça, je ne l'ai pas.
Le boson de Higgs.
Le monde a été créé de rien.
Le boson de Higgs.
C'est pas des preuves.
C'est
les certitudes, mais c'est pas des preuves.
Pardon.
Mais c'est pas grave. Il y avait une fois un rave. D'accord, c'est sa question. C'est pas une preuve. Je dis pas que c'est faux, Chassé Shalom. Évidemment que, Rabotai. Évidemment que la Torah est la Torah de vérité, que c'est notre indicateur. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas une preuve.
Mais si, c'est une preuve.
Mais non. Bon. Je peux regardez. Une fois, il y a un rave qui a dit, alors, il y a un rave, la yeshiva de Brunois, à la Machalom, il avait dit, il faut remercier Dieu qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas. Parce que des preuves qu'il existe, il n'y en a pas.
Ouais.
Il faut remercier Dieu qui n'a pas créé de preuves qu'il n'existe pas, parce que là, on aurait été mal.
Non, mais les 10 commandements.
Alors, évidemment, on sait que Abraham, Avinu, il a découvert Dieu de ses propres moyens. Il a réfléchi, il a compris qu'il y avait une force suprême.
Mais
c'est pas des preuves.
Il y a
pas de preuves.
Il y a quelque chose qui va pas. Les 10 commandements.
C'est pas une preuve.
Les 10 commandements, c'est pas une preuve.
Une preuve, c'est quelque chose que tu peux reproduire maintenant. Que tu peux démontrer maintenant.
Je vais vous dire quelque chose.
Aujourd'hui, il y a des séminaires, d'accord? Il y a des séminaires. Bon, peut-être, parce que. Il y a des gens qui sont loin de la Torah. Et peut-être, d'accord?
C'est grave, parce qu'il y a des preuves, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de preuves pour croire. Au contraire. Il faut pas de preuves si on veut avoir la
mais
la
non, croyance. Mais c'est pas une question de preuves, c'est-à-dire que c'est vrai.
On n'a pas besoin de
alors, je vais vous raconter une confidence, je ne dirai pas le nom du rave. Un rave très connu dans le monde des conférences, d'accord? Bataille. Je vais vous donner une confidence, d'accord? D'un rave. Qui a l'habitude de faire ce genre de conférences. Des conférences s'adressent à des gens, un public en général intellectuel. Et des gens, justement, qui sont loin de la Torah, qui se posent des questions sur l'existence de Dieu. Ouais. Il y a des conférences qui ont beaucoup de réussite. Ouais. Mais bon, d'accord, peu importe, je donnerai pas le nom parce que c'est une confidence, il vaut pas qu'on ait son nom. Donc, il y a des conférences qui sont convaincantes et que les gens disent, ah, c'est vrai, effectivement, c'est convaincant. Il a dit lui-même, il a dit qu'en vérité, dans ce que je dis, il y a des failles. Notamment, évidemment, comme c'est un bon conférencier. Et que notre but, c'est quoi? C'est que la personne le ramène à la Torah. Et qu'on ramène et qu'il comprenne après qu'en vérité, il a pas fait teshuvah parce qu'on l'a convaincu que Dieu existe. Il a fait teshuvah parce qu'il a compris que c'est la vérité. Est-ce que c'est parce qu'on l'a convaincu qu'il y a une preuve scientifique, etc. Après, il va le ressentir. Mais lui-même, il a dit qu'en vérité, il y a des failles dans ce que je dis. Parce que la preuve ultime sans faille n'existe pas. Mais c'est pas grave. Au contraire.
On parle de Torah, des 10 commandements.
C'est certitude, ça. Certitude.
Et les miracles, alors.
Mais c'est une certitude qu'on nous a éduqués comme ça. Mais c'est pas grave.
Il y a une chose qui est simple.
c'est impossible de prouver l'existence
bah,
de
quand parce que l'existence de Dieu.
La mer, oui.
La mer entre
exactement.
Au final, on ne peut pas le prouver ici dans ce monde.
Évidemment, tu as raison. Tu as raison. Très simple. Tu as raison.
C'est 1 plus 1 égale 12.
On ne peut pas le prouver puisqu'on peut.
Alors, jusqu'à la fin des temps, on ne saura pas que la Torah, c'est vrai.
Je n'ai pas dit que la Torah n'est pas vraie. Mais on a la certitude que la Torah est vraie. Mais tu n'as pas de preuve. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de preuve.
C'est parce qu'on voulait dire qu'on n'aura jamais une preuve comme quoi la Torah existe.
Non, mais. Parce que, encore une fois, pourquoi eux ils ont créé le nouveau, d'accord? Mais il y avait l'ancien, ils ont créé le nouveau. Parce qu'ils sont passés à côté de la notion de Torah d'Emet. Si tu dis que la Torah est vérité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer. Eux ils sont passés à côté. Ils ont dit, elle était vraie, ça fait 2000 ans. 1000 ans plus tard, elle a changé. Enfin, combien de temps plus tard? Oui. 1000 ans plus tard, il y a un nouveau. Et ça ne les dérange pas. Et 1000 ans après, ils peuvent avoir encore un nouveau. Nous on pense pas comme ça. Nous on pense que la Torah, d'accord? Nous on pense que la Torah ne peut pas changer.
C'est demain.
Est-ce qu'il y a des preuves? Il y a pas de preuves, il y a pas besoin de preuves. J'ai pas besoin de preuves.
La date avec nos ancêtres,
9 septembre.
C'est une certitude, pas une preuve.
C'est
une croyance, certitude, mais c'est pas une preuve.
C'est connecté là, Avner.
Je voulais pas ceux qui sont convaincus, je veux pas les déconvaincre.
Non, Mendy, ouais, voilà. Mendy, juste une remarque.
Qu'est-ce que vous pensez?
Juste une remarque. Bon. Mendy, si tu permets, juste une remarque.
Oui.
La notion de religion, puisque tu en faisais état, je pense qu'il y a une question de révélation qui a été faite de manière collective pour le peuple juif ou pour les Hébreux à l'époque, ce que vous voulez, et que dans les autres religions, c'est une révélation qui est individuelle.
Bon.
Donc, est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas. Mais je pense que la force du peuple, ça a quand même son importance pour fixer la vérité.
Si tu as un juif qui vient te voir, et qui te dit, si tu as un juif qui vient te voir, et qui te dit, je n'y crois pas. Attends, excuse-moi, écoute-moi. Si tu as un juif qui vient te voir, et qui te dit, je n'y crois pas, je pense que c'est une légende.
Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas plus.
Est-ce que tu as un argument mathématique, logique, pour lui répondre? Tu n'en as pas.
Mais parce que si tu rentres dans
par définition, il n'y en a pas.
Si tu rentres dans un débat qui est rationnel, déjà, il n'y a pas.
Mais c'est pas grave.
Il éclot le débat.
Mais non, ça me change pas.
Il faut être suffisamment compétent pour pouvoir.
Évidemment, ça, je ne le dirai pas à une personne. Ce que je vous dis maintenant, je vous dis parce que vous êtes initié. Je ne le dirai pas à quelqu'un qui est loin de la Torah. Évidemment, personne qui est loin de la Torah, j'essaierai de rentrer dans son langage.
Mais au contraire, je pense que c'est une façon, au contraire, de.
Oui.
Ça peut être un angle d'attache.
Mais il a besoin, les gens comme ça ont besoin, si tu veux.
Au contraire, je peux dire autant.
Alors, on peut croire que la Terre a 10 milliards d'années.
Ça ne me dérange pas de lui donner des éléments de réflexion qui se convainquent de certaines choses, d'accord, qui sont vraies. Mais qu'après, avec le temps, il va comprendre qu'en vérité, c'est pas une preuve. C'est pas grave.
Alors, si on retrouve les sables de la loi. Ça sera une preuve?
Non.
Même pas.
C'est quoi, c'est une preuve? C'est une preuve de quoi?
Tu parles d'un principe tout simple.
C'est une preuve de quoi?
Comment créer des stories qui veulent des vérités scientifiques
qui sont tombées parce que c'est pas la dernière des améliorations.
Quand tu expliques qu'on a du soleil, tu portes des graines, il pleut, ça pousse, ça pousse.
Il y a une force suprême. Il y a une force suprême. Mais qui te dit que cette force suprême, ça peut être Dieu?
Donc tu as bien continué à faire la force.
Et qui te dit qu'il n'y a pas deux dieux? Qui te dit qu'ils n'étaient pas deux? Qui n'étaient pas trois?
Il y a eu des vérités scientifiques qui ont été énoncées comme étant des choses.
Il y a une preuve? C'est une preuve, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça, ça me dérange pas.
Avec l'avancée, c'était pas si vrai que ça.
J'ai pas besoin de ça. Je crois parce qu'on m'a appris comme ça, comme il a dit Abraham. Parce que je crois parce qu'on m'a appris comme ça. Et j'ai la certitude que c'est la vérité.
Alors pour aller plus loin, première question que j'ai posée. Est-ce qu'on fait pas tout ça pour rien?
Non.
Mais
oui, mais la question.
Mais c'est la question.
Mais c'est pas moi qui l'appose.
C'est la réponse.
Tu peux aller plus loin.
C'est la. T'as raison. C'est une bonne question ce que tu poses.
Vous le saurez la semaine prochaine si vous êtes.
La réponse la semaine prochaine.
Si vous êtes.
Émettre la vidéo.
Non, attends quoi.
Allez, on s'arrête là.